Approchez, approchez, braves gens. Venez tous assister au grand cirque démocratique des élections européennes. Tripatouillage des cantons, escroquerie généralisée, privatisation des bénéfices, fermeture d'entreprises, mépris global des travailleurs et des électeurs, reprise en main des médias, puisage éhonté dans les caisses publiques. Le G20, mesdames, messieurs, le G20 est enfin heureux de vous inviter à la démocratie en marche sur une mise en scène du capitalisme moralisé, des décors de Vincent Bolloré et des costumes de Christine Boutin. La finance internationale vous souhaite de bonnes élections européennes 2010. Qu'en se le dise. Eh oui.
Oui, bonjour. J'ai entendu tout à l'heure l'auditeur qui s'indignait du fait que Bolloré puisse recevoir la Légion d'honneur. Et je vais juste ajouter un détail à tout ce qu'il a dit. C'est que donc la République démocratique du Congo est en guerre depuis 1998. Et bien que le conflit se soit officiellement terminé en 2003, il y a toujours un millier de civils qui continuent à mourir chaque jour. Ben, on sait que la guerre continue, notamment à cause des nombreux minerais qu'on trouve là-bas. L'ONU a demandé aux entreprises à travers le monde de ne pas acheter de minerais qui proviennent des régions en conflit. Et sur la liste noire des entreprises qui ont refusé de suivre cette recommandation de l'ONU, il y a une entreprise qui s'appelle SDV Transintra, qui est une filière à 100% du groupe Bolloré. Donc quand on sait que la guerre en République démocratique du Congo a fait plus de 4 millions de morts entre 1998 et 2003, et environ 2 millions de plus depuis la fin de la guerre, c'est vrai que Bolloré mérite vraiment la Légion d'honneur. Merci, c'était Mathilde.
Allô, bonjour, je m'appelle Paul Rago, j'habite dans le Jura. J'écoute assez souvent votre émission, il y a des tas de choses intéressantes, mais je suis vraiment exaspérée par le ton de certains messages que vous laissez passer aux répondeurs. Ça frise le grotesque, comme le type qui chantait tout à l'heure, psalmodiait, à propos des obsèques de René Bonnory. Ça n'a aucun sens. Voilà, bonnes émissions et tâchez de modérer un peu quelquefois l'âpreté de vos critiques et de ne pas trop ridiculiser les gens à qui vous vous attaquez. Merci.
Bonjour à tous. Ah, le Grenelle de l'environnement. La semaine du développement durable, quel joli conte de fées. On en oublierait presque la réalité. Et la réalité, c'est quoi dans notre beau pays? Après avoir ruiné la Bretagne, l'industrie agroalimentaire cherche à faire de nouvelles victimes et à polluer la France entière pour le plus grand profit de quelques-uns avec la bénédiction du gouvernement. Exemple, à 25 km de Poitiers dans la Vienne, à Chauvigny pour être plus précis. Là, elle projette d'installer une porcherie industrielle, provoquant au passage la fermeture de 12 élevages traditionnels dans le Limousin. 19 000 porcs vont être engraissés chaque année sur cailles bouties en béton. Ils vont produire plus de 12 000 mètres cubes d'olivier qui va être épandu dans une région déjà saturée en nitrate. Mais la population a décidé de se battre. Une association a été créée, l'Association citoyenne pour la protection de l'environnement. Elle a lancé une pétition en ligne sur son site internet www.acipe.fr. Je répète, www.acipe.fr. Yannick Jadot, qui est candidat du mouvement Europe Écologie aux élections européennes, sera sur le site le vendredi 17 avril à 14h pour dénoncer ce projet monstrueux. Il faut se bouger. Il y a danger chez nous, mais aussi partout en France, puisque notre bon ministre de l'Agriculture vient de débloquer 33 millions d'euros pour aider la filière porcine industrielle à polluer notre territoire. Au nom du développement durable, bien sûr, et merci pour les générations futures. N'oubliez pas, rendez-vous vendredi 17 avril à 14h à Chantegay, près de Chauvigny. C'était Philippe, un voisin de la future porcherie industrielle.
Alors, con, toujours aussi droit? C'est ainsi que le saluait dans les couloirs de l'ORTF, je ne sais plus qui. C'est une anecdote que racontait Claude Villers, si j'ai bonne mémoire. Sinon, c'est Michel Droit le samedi matin, je le trouvais plutôt tonique. Moi, on était en colère pour toute la semaine et puis on pouvait aller militer. Allez, salut, bon courage à tous. C'était Michel dans les Ardennes.
Bonjour toute équipe. C'est vrai qu'hier j'ai été étonné de ne pas entendre la deuxième partie des chroniqueurs. C'est dommage, j'espère que c'est pas perdu, qu'on va l'entendre aujourd'hui ou dans les jours qui vont suivre. Moi je suis un fou d'archives radio. C'est vrai que ça serait bien qu'il y ait d'autres émissions comme ça qui, voilà, qui rapassent comme ça des très anciennes émissions. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi.
Eh ben, vous allez être comblés aujourd'hui. On continue avec les chroniqueurs, avec non pas l'histoire véritablement des chroniqueurs de radio, mais quelques exemples de ces chroniqueurs en question. Et bien sûr que c'est nostalgie garantie, c'est archives bien sûr, et des noms comme celui de Philippe Henriot, le très sinistre Philippe Henriot, le nom de Jean Nocher, de Jean Grand-Mougin, de Geneviève Tabouille et d'autres. Évidemment, à chaque fois, ça déclenche des nostalgies, des souvenirs, des époques, et puis des contenus aussi. Que disaient au juste ces gens-là que nous écoutions parfois d'une oreille distraite, qui n'était qu'un bruit de fond, dans la TSF, dans l'autre pièce? Et que disaient-ils au juste? Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de comprendre et de regarder d'un peu plus près avec Norbert Vallée. On est allé dans les archives, Lina nous a confié un certain nombre de documents, et on va vous les présenter. C'est le deuxième volet aujourd'hui. Il ne faut pas s'y méprendre. Nous n'avons pas pour propos de dire que c'est la même chose, que les chroniqueurs disent tous la même chose. Bien au contraire, ils disent des choses chacun à sa façon, des choses différentes, mais il y a quelque chose là d'important, puisqu'il s'agit d'opinion. Il s'agit de gens qui, et j'en fais partie tout à fait, qui contribuent à la fabrique de l'opinion quotidiennement. Ils ont des responsabilités, ceux qui les écoutent également, ils ont des responsabilités. L'étonnement, c'est sans doute que tout cela ne soit pas étudié de plus près, ni critiqué de plus près, parce que les noms que j'ai évoqués se sont adressés à des millions, des dizaines de millions d'auditeurs au cours de, très souvent, de leur longue carrière. On verra que beaucoup d'entre eux sont restés très longtemps derrière leur micro. Alors qu'en est-il resté dans les esprits? Qu'en est-il resté dans l'opinion? En quoi est-ce qu'ils ont contribué à fabriquer cette opinion? C'est une question tout de même importante et qui mérite au moins une heure de là-bas si j'y suis. Chroniqueur, chroniqueur, attendez-vous à savoir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Plus de trois semaines que la ronde infinie des obstinés tourne place de l'Hôtel de Ville à Paris. Pas de vacances pour la grève des universités. La ronde infinie des obstinés veille. Malgré les assertions des ministres Darcos et Pécresse, le mouvement de résistance des universités contre leurs lois et décrets n'a pas cessé. Aucune de nos revendications n'a reçu la moindre réponse satisfaisante. La ronde infinie des obstinés est un témoignage vivant d'une lutte qui n'est pas prête de s'arrêter. Depuis le 23 mars, nous tournons jour et nuit en place de grève pour manifester notre détermination, pour alerter l'opinion de la gravité de la situation. 500 heures à marcher, ce n'est rien lorsque l'avenir de l'enseignement et de la recherche est à ce point en danger.
Oui, bonjour à tous, Baptiste de Strasbourg. Je voulais vous annoncer que la ronde infinie des obstinés qui est née à Paris va se propager à Strasbourg, chez nous. Donc elle commence aujourd'hui, mardi, à 11h30, place Kléber. Et voilà, donc nous invitons tous les auditeurs à se joindre au mouvement, pour essayer de faire entendre, malgré tout, en ces temps difficiles, les revendications des étudiants-chercheurs et des enseignants-chercheurs et des étudiants, pour faire entendre raison à M. Darcos et à Mme Pécresse, qui ont l'air de se foutre de l'université autant que le président se fout bien de la princesse de Clèves et de Mme de Lafayette.
Le prochain repère du 14e aura lieu le dimanche 19 avril au Magique, 42 rue de Jargovie, métro Plaisance. Restons sereins, restons légers face aux galères. Pensons à Mouna qui a su nous donner du courage pour lutter. A bientôt, fier AMG.
Oui, bonjour à tous. Message à destination des cerveaux curieux et disponibles de Gironde. Chomsky et compagnie sera projeté en tournée clin d'œil organisée par la CPG du 15 au 20 avril dans les salles suivantes. Le 15 à 20h30 à Saint-Médard-en-Jalles, le 16 à 20h45 à Andernos, le 17 à 21h à Bajas, le 18 à 20h30 à Léognan, Le 19, 18h à Cadillac, le 20 à 20h30 à Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le DVD, ou qui veulent soutenir leur salle, ou qui veulent débattre avec Christophe Payet de la Crimed ou Jean Bricmont. Voilà, au plaisir.
Bonsoir, c'est Pascal de Nice. C'est trop dommage qu'il n'y ait pas de repère à Nice, qui est quand même une grande ville, et ce serait bien qu'on soit quelques-uns ou plus nombreux à se retrouver pour discuter de tous les sujets de là-bas si j'y suis. Donc je propose qu'on se retrouve à Loupastrouille, café qui se trouve sur la place du Palais de Justice, le troisième mercredi de chaque mois à 19h. Donc le prochain mercredi est le mercredi 15 avril. Voilà, à bientôt j'espère.
Toi qui fais de l'humour sur les ondes, articule mon gars, prononce bien, donc pas mot neuri, mais mot nourri. Ciao, ciao. Dis donc Daniel, t'as tout faux sur Venise. D'abord, t'avais qu'à choisir d'y aller à la fin de l'automne, quand tu ne croises que les chats, tu sais, dans les ruelles, loin des touristes surtout. Quand le ciel est gris et puis que souffle un petit vent bien sec, qui fait claquer les volets de tous ces palais mélancoliques et immortels. Allez, bye.
Quelquefois...
La radiodiffusion nationale vous parle.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis avec Norbert Vallée, chroniqueur ou chroniqueur. Attendez-vous à savoir...
Geneviève Tabouy, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir...
À France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel.
Il y a encore
3 ans.
Nombreux sont les congressmen qui ne manquent pas d'humour au Capitole.
Il faudrait pourtant dissiper une équivoque
quand ça
tienne complaisamment les communistes. Ce mot de libération dont ils se gargarisent et nous rebattent les oreilles, quel sens lui donne-t-il?
Parfois qu'un parlementaire avait fait un discours qui n'avait manifestement pas...
Des voix qui donnent, des voix qui claquent, la pitié nasillarde, c'est ainsi qu'on appelait par exemple Geneviève Tabouy. Un autre, Jean Nochet, s'appelait le râleur national. Ces chroniqueurs, au cours des années, et là nous avons pris après la Deuxième Guerre mondiale, y compris, vous avez entendu, vendredi, durant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui s'étaient emparés de l'information et qui chaque jour éructaient, comme Philippe Henriot ou Jean-Hérold de Paqui, pour Vichy, pour l'occupant, eh bien, ces voix ont indéniablement joué un rôle. Lequel exactement? Dans la fabrique de l'opinion. Comment en êtes-vous arrivé à penser ce que vous pensez? Comment en êtes-vous arrivé à avoir les opinions que vous avez aujourd'hui? C'est une question terrible, une question énorme, une question qui déclenche un tas d'interrogations et que pose l'historien américain Howard Zinn. Vous faites le salut hitlérien tout nu dans votre salle de bain, ou bien vous vous endormez avec sur le cœur la photo de Martine Aubry. Comment cela vous est-il arrivé? Comment ça nous arrive dans la tête, tout ça? Dans la tête ou ailleurs? Quand on regarde en arrière, et ces voix nous y invitent, quand on regarde en arrière ces fabuleux aveuglements collectifs, ces foules acclamant tantôt Pétain, tantôt Staline, tantôt Hitler. Souvenez-vous, les scènes lors des funérailles de Joseph Staline. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on se soumettre? Et puis parfois, comment réussit-on à rentrer en dissidence et à se révolter ou à contester, à rentrer dans l'esprit critique? Mais comment en est-on arrivé à penser ce que nous pensons chacun d'entre nous? Eh bien, indéniablement, ces chroniqueurs, vous avez compris que nous avons choisi, privilégié les chroniqueurs, plutôt les chroniqueurs politiques, les chroniqueurs qui vont sur les idées. Bien sûr qu'après tout, il y a toutes sortes de chroniques. Il y a des chroniques de jardinage ou de sport automobile. On a privilégié évidemment ces chroniqueurs-là qui, dans leurs différences, disent quelque chose d'une époque, d'eux-mêmes, bien évidemment, mais on peut s'interroger sur les raisons qui ont fait qu'ils sont restés à l'antenne, qu'ils ont été choisis pour s'exprimer, pour exprimer ce qu'ils expriment, et quelle a été leur influence. Sans doute, évidemment, une influence moins grande que ce qu'ils supposent la plupart eux-mêmes, mais tout de même, il y a là quelque chose d'ignoré dans les études, dans la mémoire, dans l'histoire. Ils ont indéniablement eu une importance, ils en ont indéniablement une toujours aujourd'hui. Quelle est-elle exactement? Qui sont-ils? Que disent-ils quand on les regarde et qu'on les écoute autrement? C'est notre Là-bas si j'y suis, aujourd'hui, jusqu'à 16h, chroniqueur ou chroniqueur, attendez-vous à savoir.
Dormez en paix, ça ne pouvait pas durer, tu me l'as prouvé, pour ne pas changer. 7h du matin, à nouveau je te dis déjà,
je t'en supplie, baisse un peu la radio.
On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça,
je t'en supplie, baisse un peu la radio.
Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que c'est bientôt fini? Chanter les derniers succès, autant que toi ne l'oublie pas. Oui, j'ai Madame Mireille Mathieu avec son credo. J'aime Hallyday et les autres aussi, oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Je t'en supplie, baisse un peu.
RTF, 26 mai 1967.
En direct avec vous, voici Jean Nocher.
Pardonnez ce soir un direct exceptionnel. Vous êtes nombreux à vous indigner des injures, des calomnies et des agressions que j'ai à subir de la part de publications ayant, il est vrai, fort peu de lecteurs en général. Et vous me demandez de riposter en m'envoyant les magnifiques protestations que vous leur adressez. Si je ne réponds jamais publiquement aux attaques, c'est d'abord parce que vous le faites individuellement pour moi et que de telles tristesses ne méritent pas votre généreuse audience. C'est ensuite parce que ces insultes viennent toutes des ennemis de mon pays et qu'elles tendent ainsi à démontrer la correction et l'efficacité de mon humble tâche quotidienne. Quand par exemple un journal qu'on sait téléguider de l'étranger intime au gouvernement de la France l'ordre de me faire taire, c'est évidemment la preuve que je parle en bon français et que ça gêne ceux qui ne nous veulent pas de bien. Alors c'est parfait. Et voilà pourquoi je suis fier d'être injurié en votre nom à vous, les Français qui y croyaient. Et je vais vous faire comprendre et faire comprendre aux intellectuels de l'anti-France ce qu'ils n'ont pas compris. Si on ne les écoute pas, eux qui sont si intelligents, et si on m'entend, moi qui suis si bête, est-ce que ça ne serait pas parce qu'il y a entre vous et moi un point de contact qu'ils n'ont pas, eux, le pur et simple bon sens, toujours, et quelquefois un peu de cet esprit qu'à l'étranger, on veut bien précisément appeler français. À demain, bonsoir.
En direct avec vous, c'était Jean Nocher.
Un échantillon des prouesses de quotidienne de Jean Nocher qui a opéré des années durant sur les antennes. Et le voilà partant en guerre contre les intellectuels de l'anti-France au nom du bon sens qui évidemment toujours l'essentiel de la France profonde, la France qui se tait, la France qui ne manifeste pas, etc. Et on voit où Gottlieb, pour ceux qui se souviennent de Super Dupont, a trouvé son inspiration. Vous vous souvenez de ce Super Dupont avec sa petite moustache, son béret, sa baguette sous le bras. Voilà, ben c'était un peu les idées de Jean Nocher qui étaient celles de Super Dupont. On va revenir sur, parce qu'on ne peut pas quand même le laisser comme ça, Michel Droit, on l'a entendu vendredi, mais évidemment, il y a de la demande. Vous êtes très, très client, très demandeur de Michel Droit. Je rappelle qu'il est resté sur l'antenne d'Inter de 1969 à 1981. Et le voilà dans une de ses œuvres. Je rappelle que Michel Droit avait au moins le courage de ses convictions. C'était un romancier, c'était un journaliste, c'était un polémiste. Il est rentré, je l'ai indiqué vendredi, à l'Académie française. Il était de l'Académie française. Et il y a un épisode assez intéressant dans sa vie, c'est quand il s'était lancé contre... l'adaptation que Serge Gainsbourg avait faite de la Marseillaise, vous savez, aux armes, etc. Et il avait reproché, Michel Droit, à Serge Gainsbourg de faire du tort à ses coreligionnaires. Et imaginez qui sont les coreligionnaires de Gainsbourg, en provoquant une résurgence d'antisémitisme. Voilà, il y a cette accusation d'antisémitisme, ce chantage à l'antisémitisme, vous le voyez, a une histoire. Cette position, évidemment, lui avait attiré les foudres du MRAP à l'époque. Ces pages, aujourd'hui, sont tournées, mais à la veille de 1980, qui a vu l'élection de François Mitterrand, Michel Droit ferraillait pour la peine de mort.
Je ne pense pas qu'un seul des jurés qui ont voté mardi soir aux Assises de la Seine la mort de Philippe Maurice, assassin d'un gardien de la paix, soit rentré chez lui, habité par la seule et tranquille satisfaction du devoir accompli. Mais la question n'est pas là. Je dirais qu'elle n'est pas non plus, et ils le savent bien, dans les arguments généralement employés par les adversaires de la peine de mort. Que disent-ils en effet ? Premièrement, que la mort d'un criminel ne rend pas la vie à sa victime. Cela, c'est évident. Bon, ne discutons pas. Mais que cela signifie-t-il ? Ça signifierait simplement qu'une peine qui n'est plus appliquée aux mesures des crimes dont elle est là pour être le châtiment cesse, en quelque sorte naturellement, imperceptiblement, d'être une peine exemplaire. Mais précisément, je viens de prononcer le mot « châtiment ». Et vous observerez que c'est un mot que les abolitionnistes n'emploient jamais. Ils l'escamotent en quelque sorte, et pour cause, car ce qui est important pour eux, c'est d'ancrer dans l'esprit du public que la peine de mort n'est là que pour l'exemple, que pour faire peur. Eh bien non, elle est également là pour châtier en fonction du crime commis, et voilà ce que l'on a tendance à oublier. Une société où le crime ne cesse de proliférer, comme c'est le cas de la nôtre actuellement, et où les représentants élus de cette société, quelle que soit leur tendance politique, voteraient en son nom une loi pour protéger la vie des assassins au lieu de développer sans cesse les moyens légaux de lutter contre le crime et la violence en général, eh bien cette société-là, qui dès lors ne s'arrêterait évidemment pas sur le chemin où l'on viendrait de l'engager, serait une société que l'on condamnerait elle-même progressivement à mort, sans grand espoir cette fois de recours en grâce possible à brève échéance. À samedi prochain.
C'était la chronique de Michel Droit.
Tu as volé mon enfant, versé le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera, j'aurai ta peau, tu périras. Tu m'as retiré du cœur, et la pitié et la peur. Tu n'as plus besoin d'un
Comment s'impose l'idéologie dominante dans une large population? Voilà peut-être des éléments de réponse. Bien évidemment que dans ces années 70, vous imaginez bien qu'il y avait d'autres pensées, d'autres penseurs, d'autres courants que celui de Michel Droit, et il suscitait, des auditeurs l'ont indiqué dans les messages, ils ont laissé au répondeur de là-bas, si j'y suis, que c'était chaque fois qu'on entendait Michel Droit, une colère renouvelée et parfois une franche rigolade. Un autre héros de ces parmi ces chroniqueurs fut Jean-Adolphe Alfred Garnier de Cassagnac, dit Saint-Granier. Saint-Granier a eu un tas d'activités différentes dans le music hall. Il était l'auteur d'une chanson qui s'appelait Ramona. Mais il a surtout sévi pendant des années et des années, dès 1935, sur Radio Cité. Et il a opéré jusqu'en 1974. Il se disait lui-même le rouspéteur national Saint-Granier, la minute du bon sens.
Bonjour mes chers auditeurs, bonjour. Dernièrement, nos députés ont discuté à propos de la loi sur la cruauté vis-à-vis des animaux. Les combats de coqs vont être interdits, mais les courses de taureaux et les chasses à cours vont continuer à être permises. J'ai parlé déjà de ces questions et donnant mon avis, je me suis attiré une volée de bois vert de la part des partisans des courses de taureaux et des amateurs de chasse à cours. Ma famille paternelle est originaire du Midi-Ouest, où les courses de taureaux sont vivement prisées. Alors vous voyez comme je suis gêné. Je suis un amoureux de la côte basque, mais je manquerais de franchise vis-à-vis de mes amis de cette riante contrée si je ne leur disais pas que je n'aime pas ce spectacle. Quel que soit le cadre qu'on lui donne, la beauté des costumes, le courage du matador, son élégance, la grâce avec laquelle il place les banderilles, il n'en demeure pas moins, même si l'on considère le taureau comme une bête sauvage, qu'il s'agit d'un spectacle que je trouve attristant pour des gens civilisés. Quant à la chasse à cour, bien que je compte des amis parmi ceux qui la pratiquent, je ne veux pas leur cacher non plus qu'il s'agit, malgré toute l'élégance dont on l'entoure, d'un abominable assassinat qui n'a même pas l'excuse du matador qui risque sa vie. Nous naissons tous avec de mauvais instincts que nous avons le devoir de combattre. Et je m'élève également contre le spectateur qui n'applaudit l'acrobate que lorsqu'il travaille sans filet, qui n'applaudit le dompteur que lorsqu'il prend de grands risques. Enfin, je lis ceci et je vous en fais juge. Alerté par le nombre de chiens tués accidentellement à la chasse, qui augmente chaque année dans des proportions inquiétantes, certaines compagnies d'assurance ont mené une enquête extrêmement sérieuse qui a abouti à cette conclusion qui me laisse sans voix. 10 à 15% des chiens tués accidentellement à la chasse ont été en fait supprimés volontairement de sang-froid. Par qui ? Quand on veut savoir qui a commis un crime, on cherche à qui le crime profite. En général, le propriétaire d'un chien tué à la chasse touche une indemnité de 10 000 à 65 000 anciens francs de sa compagnie d'assurance. Je vous laisse juge de pareil forfait. Bonjour mes chers auditeurs, bonjour.
Mais hélas, souvent, le chroniqueur parle dans le désert. Saint-Granier, en 1963, n'a pas été suffisamment entendu. L'influence des chroniqueurs n'est pas toujours à la hauteur de leurs attentes, ni celle de leurs fidèles auditeurs. Si bien qu'en matière de défense des animaux, et notamment de corrida, 46 ans plus tard, sur l'antenne de France Inter, Philippe Val se voit obligé de continuer le combat.
C'est Philippe Val, directeur de Charlie Hebdo. Bonjour Philippe.
Bonjour Nicolas.
Les jeunes lecteurs de Mon Quotidien ont récemment pu faire la connaissance de Miquelito, l'enfant torero.
Lorsqu'il y a quelques années, un éditeur a eu l'idée de publier un quotidien pour les enfants, j'ai trouvé l'idée géniale. Mon copain Charbe, autrefois, a été le dessinateur de Mon Quotidien et il a créé ce petit personnage satirique qui agrémente les articles. Un enfant qui aime la lecture est un enfant sauvé de bien des malheurs de la vie et un enfant qui, de surcroît, prend plaisir à lire les journaux est doublement outillé pour trouver le chemin de la liberté dans le labyrinthe obscur de l'enfance. Mais, il y a quelques jours, je tombe sur un numéro de Mon Quotidien, destiné aux enfants à partir de 10 ans, dont la une et l'article principal étaient consacrés à la corrida. On y découvre Miquelito, cet enfant de 11 ans, franco-mexicain, qui a tué son premier taureau à 6 ans et qui depuis en a tué 60. Récemment, au cours d'une corrida au Mexique, il a tué 6 taureaux en une après-midi. Sur le site internet de Mon Quotidien, on le voit enfoncer sa banderille dans le cou ensanglanté d'un taurillon. Sur le blog, on peut lire les commentaires des gosses, choqués, voire terrorisés. La corrida est une torture dont les adultes qui s'en repaissent se réfugient derrière un esthétisme de pacotille pour justifier leur fascination de la souffrance et de la mort des autres. Cette ambiance avinée, ces clameurs d'enthousiasme devant des blessures béantes, ces musiques ringardes et ces costumes grotesques sont autant de prétextes pour se bercer d'un fantasme d'obination et d'impunité humaine devant l'humiliation et l'assassinat des bêtes. C'est l'Espagne franquiste qui a remis à la mode cette boucherie qui se prend pour un art. Ce sont des esthètes qui parfois se croix de gauche qui lui servent de caution en se prenant pour Monterland ou Picasso, lesquels étaient sans doute des artistes haut de gamme, mais des humains bas de gamme. Faut-il que les groupes de pression et les impresarios richissimes de la corrida soient puissants et politiquement influents dans le sud de la France pour qu'un journal pour gosses se croit obligé, pour des raisons de marketing, de livrer cette cruauté à l'admiration des enfants ? Les enfants sont cruels par ignorance, par curiosité et par un sadisme infantile bien connu. Enfin bon, on va pas faire du Françoise Dolto, mais quels adultes veut-on qu'ils deviennent si l'apprentissage de la compassion et le respect du plus faible, donc de l'animal, n'interviennent pas dès le plus jeune âge? Quand je vois un aficionados, j'ai honte de faire partie de la même espèce humaine que lui. S'il y a des adultes assez cons pour prendre leur plaisir à la souffrance des bêtes, on ne peut que le regretter. Mais attirer les enfants sur cette pente relève au mieux de l'inconscience, au pire de la perversion. Récemment, au congrès fondateur du nouveau parti anticapitaliste de Besancenot, des militants ont proposé un amendement pour la reconnaissance de la sensibilité animale contre la corrida et la chasse à cour. Il a été repoussé avec mépris. L'indifférence à la sensibilité animale n'est jamais très éloignée de l'indifférence à la sensibilité humaine. Par conséquent, je ne demanderai jamais à ma mère de m'abonner à Mon Quotidien. Et quand je serai grand, je ne voterai non plus jamais pour le NPA. Mais ça, je m'en doutais déjà un peu avant.
Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. C'est pourquoi nous devons apprendre à bien reconnaître un communiste afin de pouvoir le dénoncer aux autorités d'occupation. Aux autorités. Comment reconnaître un communiste ? Eh bien, c'est très simple, grâce à la radioscopie. Regardez bien. Alors, voici tout d'abord la radioscopie d'un homme normal. Alors, nous voyons très nettement le cœur et l'âme. Il en va tout autrement du communiste. Nous avons ici la radioscopie d'un communiste. Que constatons-nous ? Eh bien, tout simplement, nous voyons très nettement qu'il n'a pas d'âme et qu'il n'a pas de cœur. La honte l'envahit.
La honte m'envahit.
Étonnant, non ?
Voilà, notre chronique, quand même, dans ses voix sérieuses, péremptoires et parfois comiques aussi, Évidemment, vous avez bien compris qu'on ne met pas tous ces chroniqueurs dans le même sac, la preuve par Pierre Desproges. Il y a une voix qu'on a entendue pendant des années et des années sur nos radios, notamment sur Radio Luxembourg, de 1948 à 1962, pendant 14 ans, les auditeurs de Radio Luxembourg entendaient, écoutaient Jean Grand-Mougin. C'était une grande voix. L'un des thèmes, évidemment, de toutes ces années fut la lutte contre le communisme. Guerre froide oblige. Jean Grand-Mougin, d'une voix calme, distanciée, le contraire de Tony Truant, débitait ses chroniques.
Comme chaque dimanche, à la même heure, nous retrouvons maintenant Jean Grand-Mougin. Thème de sa chronique ce matin, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'attitude de la jeunesse soviétique face à la contestation.
Aucun jour ne s'écoule sans qu'une nouvelle nous parvienne d'au-delà du rideau de fer quant à la persécution subie par des dissidents. Qu'en pense la jeunesse soviétique ? Rien. Ou si elle en pense quoi que ce soit, elle se garde bien de l'exprimer. Les jeunes savent ce qui leur en coûterait d'être des opposants. La meilleure façon de faire carrière est de s'inscrire au parti. Quiconque dévie est menacé de perdre son gagne-pain et celui de sa famille. L'envoi en camp de rééducation éperon et quel camp ? Un territoire est interdit à tout citoyen soviétique, la Mordovie, dans la moyenne Volga, la région des Tchouvaches. De nombreux camps à régime dur y existent. Sont-ils en cours de transfert vers la région de Perm dans l'Oural ? Dans ces camps, la semaine de travail est de 48 heures, 50 grammes de viande par jour, mais les détenus n'en perçoivent bien souvent que le quart. Ni graisse animale, ni légumes frais. Pour quelques roubles chaque mois, les détenus peuvent acheter à une cantine un supplément de nourriture ou quelques mauvaises cigarettes. Mais le règlement est tel qu'ils en sont privés à la moindre infraction. Un retard à l'appel suffit. L'appel, au son d'une musique alerte, a lieu à 6 heures du matin. Et tout prisonnier doit y assister, même ceux qui rentrent de leur travail à 1 heure du matin. Des vieillards vivent dans ces camps, parfois depuis un quart de siècle. Des invalides que leurs capots peuvent renvoyer du jour au lendemain au travail. Les survivants ont perdu tout espoir d'en sortir, d'où de nombreux suicides, le tiers environ des décès. Des détenus succombent au froid l'hiver dans des cachots disciplinaires. Les corps ne sont pas rendus aux familles, ils sont inhumés dans le cimetière du camp, sans nom, rien qu'un numéro matricule. Les enfants, car il y en a dans les camps, restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans, mais ils partagent le sort commun. Lorsqu'un enfant meurt, il est mis en terre anonymement, sa mère ne connaîtra pas l'endroit où il est enterré. Tout cela se colporte, une littérature clandestine passe de main en main. La Russie a sa résistance, alors les jeunes sont prudents. Ils n'ont aucune envie de tâter du goulag. Le goulag, c'est comme l'enfer, mieux vaut que ce soit pour les autres. Ils s'abstiennent de toute politique et les idéologues du parti s'en plaignent. Contester serait périlleux et ne mènerait à rien, les jeunes en sont convaincus. Mieux vaut ne pas se frotter à l'État. Il y a des maisons de jeunes, des clubs de jeunes, des associations de culture physique. Les jeunesses communistes ont leurs cellules, mais les films officiels qui sont projetés dans leur cinéma, le répertoire de leurs pièces de théâtre sont si peu attrayants que les jeunes ne se dérangent guère. Ils ont pris une habitude, la soymetrovska, ce qui veut dire conversation debout. Dans les villes, les jeunes déambulent, toujours au même endroit, sur guère plus d'une centaine de mètres, habillés de briques et de brocs, ils se disent bonjour, discutent, des groupes se forment, sans tapage, aucun sujet n'est tabou. Bien que la ville d'Astrakhan compte 2 théâtres, 18 cinémas, des maisons de la culture, des parcs, un conservatoire, des salles d'exposition, la soymetrovska ne fait qu'y croître, et Astrakhan n'est pas une exception. Des amateurs de disques s'associent, des photographes, des sans-filistes amateurs, qui prennent bien soin de ne pas se déclarer, que peut l'autorité contre leurs émissions pirates. Les jeunes, pour communiquer entre eux, évitent les chemins d'État, les chemins jalonnés. Est-ce une fêlure dans le régime, l'annonce d'un craquement ? La masse des travailleurs est imbécile, comprenez, débile, dénuée de force. Elle a besoin d'être conduite par une main de fer. Quelqu'un l'a écrit en 1899, il s'appelait Lénine.
C'était la chronique de Jean Grand-Mougin, il est 8h20.
Pour ne jamais faire un seul pas sans le droit de travail. Tabouy. Les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir.
Paris Inter, 4 novembre 1952.
Durant 5 ans de ma vie, j'ai suivi assidûment les séances du Congrès à Washington. Je me suis laissé aller à penser que si Euclide avait dû écrire l'histoire du Parlement au lieu de celle de la relation des nombres, il aurait posé en premier axiome « Tout politicien est le même politicien en tout temps et sous toute latitude ». Et j'en aurais aisément conclu que la République américaine des camarades ressemble comme une sœur à cette République des camarades dont Robert de Jouvenel nous a brossé un immortel tableau. Et cette impression persistait encore devant le fameux système des deux partis, démocrates et républicains, grâce auquel la Constitution fédéraliste américaine n'a jamais dégénéré en anarchie ou en tyrannie depuis ses pères fondateurs de 1787.
La pitié nasillarde, comme on l'appelait Geneviève Tabouy, en fait, fut la première femme journaliste à acquérir une notoriété internationale. Là, on l'entend sur Paris Inter, mais elle était surtout connue des auditeurs de Radio Luxembourg qui l'ont entendue dans les années 60 avec sa fameuse émission « Dernière nouvelle de demain » qui commençait toujours inévitablement par « Attendez-vous à ça ». Et Geneviève Tabouy a lutté de toutes ses forces avec beaucoup d'efficacité contre le nazisme au point que Hitler lui-même l'avait cité dans un de ses discours, Frau Tabouy. Et elle était l'amie d'Eleanor Roosevelt, l'épouse de Roosevelt. Elle est restée sur les antennes jusqu'à l'âge de très avancé de 88 ans, après qu'on l'eût régulièrement accusé d'être un agent soviétique. La voilà qui parle d'un sujet dont nous avons parlé, il y a quelque temps, très peu de temps d'ailleurs, sur les lobbies de Washington, les lobbies américains. Geneviève Tabouy.
Il n'y a qu'au Congrès qu'on trouve dans les couloirs et les coulisses une étonnante organisation, celle des lobbyistes, dont le métier est le lobbyisme ou organisation scientifique du piston. Aucun parlementaire à Washington n'ignore que ces importants ont derrière eux un grand nombre de leurs électeurs et qu'ils sont les porte-parole de l'opinion publique. La plupart des grandes entreprises industrielles en Amérique, entreprises financières ou commerciales notamment, ont ainsi au Congrès à leur service des employés bien spécialisés dont les fonctions avouées et connues de tous consistent à défendre auprès des parlementaires les intérêts de ces entreprises. Et on prétend que la corporation des lobbyistes n'est pas loin de disposer d'un budget annuel de plus de 100 millions de dollars.
Pour aller d'un village ou d'un quartier à l'autre, pour que l'on...
Les chroniqueurs, comment ne pas rapprocher Geneviève Tabouy, qui nous parlait ici en 1952 d'un autre chroniqueur éminent, quel éminent personnage, qu'Alexandre Adler, que vous entendez sur les ondes de Radio France, sur France Culture, le matin notamment. Voilà comment, en juillet 2003, Alexandre Adler défend les armes de destruction massive.
Que des armes de destruction massive aient existé en Irak, ça n'a fait aucun doute, puisqu'il suffit de se rendre dans le Kurdistan irakien pour voir encore des femmes accoucher d'enfants monstrueux, et ceci ne devrait pas faire si grand problème. Deuxièmement, il est clair qu'il y avait un programme nucléaire irakien. Troisièmement, il y a aussi, bien sûr, des stocks non expliqués de gaz de combat, par exemple de l'anthrax, et je me borne là aux observations de Hans Blix, le dernier inspecteur suédois, qui était notoirement favorable à Saddam Hussein. Donc, ces armes de destruction massive, beaucoup plus bien sûr du chimique et sans doute pas mal de bactériologique et très peu de nucléaire aujourd'hui, ont existé où il était tout à fait évident que Américains et Britanniques étaient fondés à croire qu'ils existaient. Le débat reste d'ailleurs entièrement ouvert sur cette question. Mais sur l'existence de ces armes et le danger qu'elles représentaient, Comment peut-on accuser légitimement Tony Blair ou George Bush d'y avoir cru ? Mais l'acharnement avec lequel un certain nombre de personnages dans l'opinion britannique se jettent aujourd'hui sur Tony Blair reflète évidemment tout autre chose. Il reflète la haine qu'une partie de l'Angleterre, l'Angleterre de Chamberlain, l'Angleterre pacifiste, l'Angleterre pro-fasciste, éternelle, essaye de déchirer à belles dents un homme qui, naïf comme on veut, publicitaire comme on voudra, est quand même le dernier héritier de Winston Churchill.
Le coup global de la
couche. Voilà, une chronique d'Alexandre Adler de juillet 2003 dans la série des chroniqueurs radiophoniques. Un autre célébrissime chroniqueur radiophonique, c'est évidemment Bernard Guetta qui, en 2005, part en guerre contre le non au projet de traité de constitution européenne. Bernard, lui, c'est le oui.
France Inter, il est 8h17, géopolitique. Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour.
Que se passerait-il si le non l'emportait le 29 mai prochain ?
La Terre ne s'arrêterait pas de tourner, l'Europe n'en reviendrait pas non plus aux guerres des siècles passés, les avocats du non ont raison de dire que ce ne serait pas la fin du monde, mais le monde s'en porterait-il mieux ? La réponse est non. Non seulement il serait long et difficile de recoller les morceaux après un non français, mais ayant rejeté l'actuel projet de constitution sans offrir de projet alternatif, ayant réduit à néant un effort commun par le seul effet de son bon plaisir, la France n'aurait ni les idées, ni le crédit nécessaire pour reprendre les rênes politiques de l'Europe. C'est une terrible erreur que la France est à la veille de commettre.
Voilà.
Commentaire, donc, chronique de Bernard Guetta en 2005, celui que vous attendez, évidemment, le célébrissime Jean-Marc Sylvestre, qui a sévi sur cette antenne pendant des années, qui a été vraiment la voix du néolibéralisme. Le voilà dans ses œuvres le 15 mai 2008, c'est tout récent, en guerre contre les fonctionnaires.
Les fonctionnaires ont des problèmes de pouvoir d'achat comme beaucoup d'autres salariés, c'est vrai. Ils ont des problèmes d'effectifs au travail, c'est vrai. Ils ont des problèmes de visibilité, de carrière, d'image également. La position des fonctionnaires a évidemment beaucoup évolué ces dernières années. Elle est moins valorisée, moins enviée qu'autrefois. Mais ceci dit, ce ne sont pas les catégories sociales qui sont en France les plus à plaindre et complètement protégées du risque du chômage. Ils jouissent aussi de conditions de travail qui sont quand même moins draconiennes que dans le privé, souvent au niveau des horaires ou même au niveau de la retraite. Alors,
vous les mettez à part là, hein, de la société française.
Un petit peu, enfin c'est pas moi, mais ce sont les sondages, les études les mettent à part. Et les syndicats de fonctionnaires ne sont sans doute plus assurés aujourd'hui d'avoir le soutien de l'opinion publique comme autrefois. En gros, j'y vois deux raisons principales. La première, c'est que le coût global de la fonction publique est devenu insupportable à l'économie française. Et je crois que là, la pédagogie est entrée dans l'opinion publique. La France n'a plus les moyens, qu'on le veuille ou non, et ça c'est ni de droite ni de gauche, elle n'a plus les moyens de consacrer plus de 50% de sa production, de ses richesses produites, au financement de la dépense publique. D'autant que cette dépense publique est à plus de 80% une dépense de fonctionnement, c'est-à-dire une dépense de personnel, une dépense d'effectif. Si cette dépense était une dépense d'investissement, on pourrait se dire on va la retrouver plus tard. Mais non, c'est une dépense de fonctionnement. Et le gros de la dépense publique de fonctionnement se retrouve où ? Eh bien, se retrouve dans l'éducation nationale, d'où l'effort de réforme particulier entrepris par Xavier Darcos. Et puis la deuxième raison, c'est que cette fonction publique ne paraît plus efficace à l'usager. Elle n'a pas fait comme dans les grandes entreprises privées, des restructurations, des modernisations, des adaptations aux contraintes de la modernité qui lui auraient permis d'être sans doute plus productive, même si parfois c'est considéré comme un gros mot. C'est vrai à l'école, c'est vrai à Bercy, c'est même vrai à l'hôpital. C'est une question d'organisation, de management, d'intéressement aussi des personnels. Après tout, je vais dire une grossièreté, mais on pourrait peut-être inventer des systèmes d'intéressement ou même, allons-y, de stock option pour les agents de la fonction publique. Mais pourquoi pas après ?
La radiodiffusion nationale vous parle.
Alors bien sûr, dans ce florilège de chroniques de chroniqueurs, il manque des chroniques qui relèvent souvent de l'approximation, de la sottise, de l'erreur de jugement, de l'incompétence et de la mauvaise foi. Je veux parler de ce que vous entendez chaque jour à 15h dans là-bas si j'y suis. On va finir avec celui que vous avez, enfin qu'on a eu le bonheur de vous faire découvrir vendredi dernier, c'est Jean-François Noël, l'injustement oublié Jean-François Noël, qui sévissait sur nos ondes, qui notamment dans une émission du dimanche après-midi qui s'appelait Dimanche dans un fauteuil. Il était prodigieux et la séquence, ses chroniques s'intitulait Les colères de Jean-François Noël.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quoi que vous fassiez, c'est jamais le moment. Entreprendre, investir, construire, inventer, créer, agir, c'est pas le moment. Rappelez-vous, mes maîtres, notre avant-guerre, il y a déjà quelque temps, hélas, où des vieillards qui allaient courir plus vite qu'on ne le croyait répétaient sans cesse à notre jeunesse, c'est pas le moment. Et puis, ce fut la guerre. Encore dans toutes les mémoires. Et puis l'occupation, naturellement, c'était pas le moment. À la libération, on nous a dit, il faut attendre. Attendez encore un peu. C'est pas le moment. Attendez, mon cher, la prochaine combinaison. Vous n'allez pas rentrer dans le gouvernement. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? À votre âge, acheter un appartement, c'est pas le moment. Revendre votre voiture. Réfléchissez, c'est ridicule. Voyez l'Argus de cette semaine, c'est sûrement pas le moment. En cas de malheur, dans 5 minutes, on fait la quête. Vous tombez, cher ami, comme Mars en carême. Il y a les classes creuses et le dernier quart d'heure, l'inspection, l'inspecteur, l'inspecté, le bilan et le pont des soupirs, les examens de fin d'année et les conseils de révision. Excusez-moi, je ferme la barrière, le rapide est en marche. Avec la serrure, les enfants, c'est pas le moment de jouer. Laisse ton père. Le rédacteur en chef sifflote en revenant de la revue. Et l'amour s'écrit visant au cœur. Bon à tirer. Un moribond m'a dit d'une voix de stentor, surtout qu'on ne me dérange pas et sous aucun prétexte. C'est pas le moment. Babette s'en va en guerre. La concierge est dans l'escalier. Allô, chérie, rappelez-moi. Oui, c'est ça, écrivez-lui et téléphonons-nous. Vous n'allez pas vous mettre en grève. Le patron part pour Abidjan. C'est pas le moment. C'est pas le moment de rater le dernier métro. Alors, nous ne la ferons jamais, cette grande lessive qui s'accumule depuis tant d'années. Qui ramènera nos cheminées? Qui repeindra la grille et l'escalier du grenier, puisque c'est jamais le moment? C'est pas le moment non plus d'acheter des draps pour nos belles infidèles. Laissez-les donc tourner entre elles, danser des valses lentes, des bostons et des blues, jusqu'à ce qu'elles en crèvent. Quand pourrons-nous revoir tous les copains? Faire le tour de nos tombes, monter en marche dans les manèges. Citroën et Renault et Cousinet, le Duc, la traversée de l'Atlantique, Marco, les Gélicia et Danzer, Mondragon, et le barrage du Quilou. L'Afrique bouge! C'est pas le moment! Mermoz et Saint-Exupéry, Desnos et Valéry, Ravel et Debussy, et Modigliani, et Messiaen, et Jarre, Piteauf et Dulin, c'était pas le moment! Est-ce que l'on pourra la jouer jusqu'à la dernière chandelle? Cette symphonie des adieux qui ne sera plus pour rire, ni pour déplaire au prince mécène. Et la paix, nom de Dieu! La paix des braves! Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en dit au Caire? Qui ferait la terre plus ronde, nos amours plus légères? Seulement voilà, à ce qui paraît, c'est pas le moment.
Geneviève Tabouy, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir.
France Inter, il est 9h06.
Merci à tous, merci à tous. Jean-François Noël, prodigieux. Merci à Norbert Vallée qui a préparé cette émission. Merci aux documentalistes de l'INA. Je rappelle le livre peut-être encore trouvable, je le souhaite, de Jean-François Remonté et Simone Depoux aux éditions L'Arpenteur, les années radio 1949-1989. Toutes les informes, il y a très peu de livres d'ailleurs sur l'histoire de la radio, ce qui rend celui-là précieux. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. Là aussi, nous attendons avec plaisir vos commentaires. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Florent Layani, c'est Koyen Guyenne et Raphaël Moutéa qui ont réalisé cette émission. Assisté de Charlotte Perry et Agnès Lebot. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.
Un pays où l'on se regrette peu. Mais je vous avais mis en garde contre le danger d'une certaine mode qui nous venait d'ailleurs de l'étranger, notamment par les beatniks et par certains milieux d'esthètes.
J'ai parlé déjà de ces questions.
Les orgies à la marijuana et aux stupéfiants avaient failli avoir des issues tragiques. Vous rappelez cette jeune fille trouvée agonisante et sauvée de justesse après une surboom consacrée à la drogue.
Voilà, il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Dominique Delarois. Salut.